Chapitre 25. Maria Silva était pauvre et savait reconnaître la pauvreté sous toutes ses formes. Pour Ruth, le mot « pauvreté » avait une signification vague, qui s'appliquait à une condition d'existence déplaisante, sans autre précision. Elle savait que Martin était pauvre, et, dans son esprit, c'était un état qui s'apparentait à la jeunesse d'Abraham Lincoln, de M. Butler et d'autres hommes qui avaient réussi. En outre, sa bonne conscience bourgeoise lui soufflait que, malgré les désagréments que cela supposait, l'indigence était un aiguillon salutaire incitant à la réussite tous les hommes de bonne volonté qui n'étaient pas des subalternes invétérés. L'idée que Martin fût pauvre au point d'avoir dû gager sa montre et son pardessus ne la troublait donc pas. Elle y voyait même un signe encourageant, persuadée que tôt ou tard cette situation lui ouvrirait les yeux et le forcerait à abandonner la littérature. Ruth était incapable de lire la fin dans les traits émaciés de Martin, dont les joues se creusaient chaque jour davantage. En fait, l'évolution de son visage lui plaisait et lui semblait plus raffiné, moins marqué par cette malséante vigueur charnelle et animale qui la séduisait et la repoussait à la fois. Par moments, lorsqu'elle était avec lui, elle surprenait une lueur inhabituelle dans ses yeux, qu'elle admirait beaucoup, car cela lui donnait davantage l'apparence du poète et de l'homme de lettres qu'il rêvait d'être et qu'elle eût aimé qu'il fût. Mais Maria Silva lisait une autre histoire dans ses joues creuses et ses yeux brillants, une histoire dont elle suivait le fil jour après jour en observant le flux et le reflux de ses infortunes. Elle l'avait vu quitter la maison avec son pardessus et revenir sans, malgré la froidure. Elle avait vu ses joues se remplir un peu et son regard d'affamé s'adoucir dès le lendemain. Elle avait vu aussi disparaître sa montre, puis sa bicyclette, et refleurir pareillement sa vigueur après chaque dépossession. Et elle le voyait peiné, elle savait combien de pétrole il brûlait la nuit. Que de travail. Il trimait encore plus qu'elle. Le plus étonnant était que moins il mangeait, plus il travaillait. De temps en temps, quand elle pensait que la faim le tenaillait trop fort, elle lui faisait parvenir une miche de pain sortie du four en dissimulant maladroitement son geste sous le prétexte que le pain du boulanger était moins bien cuit. Ou alors, elle lui envoyait un de ses gosses avec une grande timbale de soupe chaude, au prix d'un douloureux débat intérieur, car tout ce qu'elle lui donnait était une privation de plus pour sa progéniture. Mais Martin n'était pas un ingrat. Il savait comment vivaient les pauvres et ce que la vraie charité voulait dire. Un jour, après avoir rassasié sa marmaille avec ce qui restait dans le garde-manger, Maria investit ses 15 derniers cents dans un galon de mauvais vin. Martin, qui passait dans la cuisine pour puiser de l'eau, fut invité à trinquer avec elle. Il but à sa santé et elle lui rendit la politesse. Puis elle but à la prospérité de ses entreprises et lui au retour de James Grant, le mauvais payeur. James Grant était un ouvrier charpentier qui n'honorait pas toujours ses dettes et devait à Maria $3 de blanchissage. Comme ils avaient tous deux l'estomac vide, l'aigre vin nouveau leur monta vite à la tête. Malgré leurs différences, ils étaient l'un et l'autre seuls dans leur malheur, et bien qu'ils n'y fissent aucune allusion, la misère créa entre eux un lien solide. Maria fut stupéfaite d'apprendre qu'il avait été dans les Açores, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, et qu'il avait voyagé dans les îles hawaïennes, où elle avait émigré avec sa famille. Mais son étonnement fut à son comble lorsqu'il lui révéla qu'il connaissait bien Maui, l'île où elle s'était mariée, et s'était rendue deux fois à Kaului, l'endroit même où elle avait rencontré son futur mari. Les cargos sucriers, oui, elle s'en souvenait, et il y avait navigué. Mon Dieu, comme le monde était petit. Et Wailuku, il y était allé aussi. Connaissait-il le contremaître de la plantation? Oui, très bien. Il avait souvent trinqué avec lui. Ainsi évoquèrent-ils le passé, en noyant leur faim dans l'âpre clairet. L'avenir parut soudain moins sombre à Martin. Le succès était à ses pieds. Il n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. Puis il considéra le visage profondément ridé de la femme usée par le travail qui était assise devant lui, et au souvenir des soupes chaudes et des miches de pain, sentit monter en lui un élan de gratitude et de philanthropie. « Maria, dit-il tout à coup, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? » Elle le regarda intriguée. « Qu'est-ce que vous aimeriez avoir là, maintenant, tout de suite, si vous pouviez l'obtenir ?»
Des chaussures pour les gauches. 7 paires de chaussures.
Vous les aurez, décréta-t-il. Et elle opina gravement de la tête. Mais je parle d'un grand vœu. Quelque chose dont vous rêvez vraiment. Les yeux de Maria pétillèrent. Il voulait plaisanter.
Il y avait si longtemps que personne n'avait plaisanté avec elle. « Réfléchissez bien !» conseilla-t-il, alors qu'elle ouvrait déjà la bouche pour répondre. « Oui, oui, c'est tout réfléchi, » dit-elle. « Je voudrais une maison. Cette maison, tout à moi, pas de loyer, $7 par mois. Vous l'aurez, » affirma-t-il, « et bientôt. Et maintenant, faites un grand vœu. Imaginez-vous que je suis Dieu et que je suis prêt à exaucer tous vos désirs. Faites votre vœu, j'écoute. » Maria médita un instant, solennelle. « Ça vous fait pas peur ? » dit-elle en guise d'avertissement. « Non, non, » fit-il en riant, « je n'ai pas peur, allez-y. »« C'est énorme, je vous préviens. N'importe, allez-y. » « Eh ben !» Elle retint sa respiration comme une enfant et se jeta à l'eau. « Je voudrais avoir une ranch avec des vaches, plein de vaches, plein de terrain, plein d'herbes, près de San Lin. Ma sœur habite là-bas, je vendrai le lait à Auckland, je gagnerai plein de sous. Joe et Nick, ils garderont pas les vaches. Non, ils iront à l'école, ils feront les ingénieurs, ils travailleront dans les chemins de fer. Oui, je voudrais une ranch avec des vaches. » Elle s'interrompit et le regarda, les yeux brillants. « Vous l'aurez, » dit-il, catégorique. Elle acquiesça et leva son verre en l'honneur de son bienfaiteur pour le remercier du cadeau qu'elle ne recevrait jamais. Il avait bon cœur et elle appréciait ses largesses imaginaires, avec autant de gratitude que si elles eussent été réelles. « Non, Maria, » poursuivit-il, « Nick et Joe ne s'occuperont pas des vaches. Tous vos gosses iront à l'école et porteront des chaussures toute l'année. Ce sera un ranch de première classe avec tout ce qu'il faut. Il y aura une maison pour les gens et une écurie pour les chevaux, et une étable, bien sûr. Il y aura aussi des poules, des cochons, des légumes, des arbres fruitiers et tout le toutim. Et vous aurez assez de bétail pour vous payer un ou deux valets de ferme. Comme ça, vous n'aurez rien d'autre à faire que de vous occuper des enfants. Et puis, si vous trouvez un homme bien, vous pourrez vous marier et vous tourner les pouces pendant qu'il s'occupera du ranch. » Et après avoir distribué tous ses bienfaits, en puisant dans sa fortune à venir, Martin s'en alla mettre au clou son unique costume présentable. Il fallait qu'il fût vraiment désespéré pour en arriver là, car un tel sacrifice lui interdisait la compagnie de route. Il n'avait pas d'autre complet convenable, et s'il pouvait aller chez le boucher ou le boulanger, voire chez sa sœur, en vêtements d'ordinaire, il lui était rigoureusement impossible de se présenter chez les Morses dans un pareil accoutrement. Il s'attela à la tâche, misérable et proche du désespoir. Il commençait à se dire que la seconde bataille était perdue et qu'il lui faudrait bientôt chercher un emploi. De la sorte, il contenterait tout son monde, l'épicier, sa sœur, Ruth et même Maria, à qui il devait un mois de loyer. Il avait 2 traites de retard sur sa machine à écrire et l'agence menaçait de la lui reprendre s'il ne réglait pas son dû. Momentanément vaincu, mais refusant de déposer les armes, il décida de conclure une trêve avec le destin en attendant un retour de fortune et passa l'examen de la poste ferroviaire. À sa grande surprise, il fut reçu premier. L'emploi était assuré, mais personne ne put lui dire à quel moment il serait appelé à prendre ses fonctions. Ce fut alors, à la dernière extrémité, que la machine éditoriale s'enraya. Un engrenage avait dû céder, ou une fuite d'huile se déclarait, car un beau matin, le facteur lui apporta une fine enveloppe courte. Jetant un coup d'œil sur l'entête, Martin lut le nom et l'adresse du Transcontinental Monthly. Son cœur bondit, ses genoux tremblèrent et il se sentit défaillir. Il regagna sa chambre en titubant, s'assit sur son lit sans se résoudre à ouvrir l'enveloppe et, pour la première fois, comprit qu'on put tomber raide mort à l'annonce d'une bonne nouvelle. Car cela ne pouvait être qu'une bonne nouvelle. L'enveloppe était trop mince pour contenir un manuscrit. C'était donc une acceptation. Il savait quel texte se trouvait actuellement dans les bureaux du Transcontinental. C'était le son des cloches, une de ces histoires d'épouvante, une histoire de 5 000 mots. Et, puisque les revues de grande diffusion payaient d'avance, il y avait un chèque dans l'enveloppe. À 2 cents le mot, $20 les 1 000, cela faisait $100. En déchirant l'enveloppe, il passa en revue le détail de ses dettes. Épicier, $3.85. Boucher, $4 tout rond, boulanger, $2, fruitier, $5, total, $14.85. À cela s'ajoutait le loyer, $2.50, plus 1 mois d'avance, $2.50, 2 mois de machine à écrire, $8, 1 mois d'avance, $4, total, $31.85. Enfin, il y avait ses objets gagés et les intérêts des emprunts, $5.50 pour la montre, $5.50 pour le pardessus, $7.75 pour la bicyclette, $5.50 pour le costume, 60% d'intérêt, mais qu'importait à présent, total général, $56.10. Il voyait la somme s'inscrire en chiffres lumineux devant ses yeux. Une fois ses dettes remboursées, il lui resterait $43.90, $43.90 en espèces sonnantes et trébuchantes dans sa poche. Et, pour couronner le tout, un mois payé d'avance sur son loyer et les traites de sa machine à écrire. Il retira enfin la feuille dactylographiée et la déplia. Il n'y avait pas de chèque. Il regarda dans l'enveloppe, l'exposa à la lumière et refusa d'en croire ses yeux. Il avait beau fouiller à l'intérieur, point de chèque. Il lut la lettre en diagonale, passant allègrement sur l'éloge du rédacteur pour aller directement au vif du sujet, les raisons de l'absence de chèque. Il ne les trouva pas, mais ce qu'il trouva le cloua sur place. La lettre lui tomba des mains. Sa vue se brouilla et il s'abattit sur l'oreiller en remontant la couverture jusqu'à son menton. $5 pour le son des cloches. $5 pour 5000 mots. Au lieu de 2 cents le mot, 10 mots pour 1 cent. Et le rédacteur le félicitait par-dessus le marché. Et il ne recevait le chèque qu'après publication de l'histoire. Ainsi donc, leur fameux tarif minimum de 2 cents le mot, payé d'avance, n'était que de la poudre aux yeux. Un mensonge pour abuser les sots. S'il l'eût su, jamais il ne se fût mis en tête d'écrire. Il eut pris un emploi pour l'amour de route. En repensant au jour où il avait décidé de devenir écrivain, il fut envahi par un immense sentiment de gâchis. Tout ça pour 1 cent les 10 mots. Tout ce qu'il avait lu sur les hauts revenus des écrivains devait être des mensonges de la même espèce. Ses idées sur le métier des lettres étaient fausses. Il en avait maintenant la preuve. Le Transcontinental se vendait 25 cents le numéro et la couverture proclamait qu'il avait l'un des plus gros tirages. C'était une revue respectable dont la publication avait commencé bien avant la naissance de Martin et n'avait jamais été interrompue. Ne lisait-on pas chaque mois sur la couverture les mots d'un des plus célèbres écrivains du monde, une étoile de la littérature dont les premiers scintillements avaient paru justement dans le Transcontinental, saluant la mission culturelle de cette revue inspirée? Et le noble, le superbe et généreux Transcontinental payait $5 pour 5000 mots. Le grand homme venait de mourir en terre étrangère dans le plus total dénuement, disait-on, ce qui n'avait rien d'étonnant au vu des mirifiques droits d'auteur que touchaient les écrivains. Eh bien, il avait mordu à l'hameçon, il avait gobé les mensonges des journaux et avait perdu 2 années de sa vie. Mais on ne l'y reprendrait plus. Il recracherait l'appât et n'écrirait plus une ligne. Il ferait ce que Ruth attendait de lui, il chercherait de l'embauche. L'idée de retourner au travail lui rappela Joe. Joe qui cheminait au pays de la Sainte Flemme, et il poussa un soupir d'envie. Ses 19 heures de labeur quotidien pesaient lourd sur ses épaules, mais il était vrai que Joe n'était pas amoureux, qu'il n'avait aucune des responsabilités de l'amour et pouvait se permettre de flâner avec insouciance par les routes. Martin, lui, avait une raison de travailler, et il travaillerait. Dès demain, à la première heure, il se mettrait en chasse d'un emploi, et il ferait savoir à Ruth, sans tarder, qu'il avait changé d'avis et acceptait d'entrer au service de son père. $5 pour 5000 mots, 10 mots pour 1 cent, les derniers cours de l'art sur le marché. Quelle déception, quel mensonge, quelle infamie. Le chiffre $3.85 de sa note d'épicerie clignotait comme un signal d'alarme sous ses paupières closes. Il frissonna et prit conscience d'une douleur dans les os. Le creux de son dos surtout lui faisait mal. Sa tête aussi, le sommet de la tête, l'arrière de la tête, le front, lui faisait souffrir le martyre et sa cervelle semblait enflée. Et toujours, en dessous du front, sous ses paupières, clignotait l'impitoyable signal $3.85. Il ouvrit les yeux pour ne plus le voir, mais la lumière blanche de la pièce, qui endolorissait ses globes oculaires, le força à les refermer. Et de nouveau, le chiffre de sa note s'afficha devant lui. $5 pour 5000 mots. 10 mots pour 1 cent. Cette pensée assiégeait son cerveau comme le $3.85 assiégeait sa rétine. Tout à coup, un changement d'étiquette Les chiffres se brouillèrent et furent remplacés par 2 $. Ah ! Le boulanger maintenant. Puis 2,50 $. Cette somme l'intrigua. Il médita sérieusement la question, comme si toute sa vie en eût dépendu. Il devait 2,50 $ à quelqu'un, c'était sûr, mais à qui ? Il lui fallait impérieusement trouver la réponse. Il erra dans les innombrables couloirs de son esprit, ouvrit toutes les portes, fouilla toutes les pièces en fourrageant dans le bric-à-brac de ses souvenirs. En vain. Après des siècles de recherche, la réponse lui apparut brusquement quand il ne l'attendait plus. Maria. Quel soulagement. Il avait enfin élucidé le problème. Maintenant, il pouvait dormir. Mais non. Nouveau changement d'étiquette. C'est un 8 $ qui s'allume à présent. Qu'est-ce encore ? Toutes ses recherches étaient à recommencer. Il ne sut pas ce que durèrent ses investigations, mais après un temps qui lui parut très long, il fut rappelé à l'instant présent par un coup frappé à la porte et l'accent portugais de Maria lui demandant s'il était malade. Il répondit d'une voix étranglée qu'il ne reconnut pas qu'il faisait seulement un somme. L'obscurité de la chambre le surprit. Il avait reçu la lettre à 2 heures de l'après-midi. Alors, il comprit qu'il était effectivement malade. Le 8 $ clignota de nouveau et le supplice reprit. Mais il rusa. À quoi bon se tourmenter ? C'était idiot. Il tira un levier et son cerveau se mit à tourner comme une vertigineuse roue de loterie, un manège de chevaux de bois, une sphère à facettes lumineuses. Cela tournait de plus en plus vite et, bientôt aspiré par le tourbillon de sa mémoire, il s'enfonça dans les ténèbres. Tout naturellement, il se retrouva devant une essoreuse qu'il remplissait de manchettes amidonnées. Ce faisant, il remarqua des chiffres imprimés sur les parements. Un nouveau système de marquage du linge, se dit-il. En y regardant de plus près, il vit le signe 3,85 $ sur l'une des manchettes, la note de l'épicier. Bien sûr, tout devenait clair, c'était ses dettes qu'il voyait tournoyer dans le tambour de l'essoreuse. Une idée géniale lui vint. Puisqu'il avait toutes ses factures sous la main, il lui suffisait de les jeter par terre pour ne plus avoir à les payer. Aussitôt pensé, aussitôt fait, il les piétina rageusement sur un seul crasseux. La pile grossissait, les factures se dédoublaient, décuplaient, se multipliaient à l'infini. Il n'en avait qu'une qui ne réapparaissait jamais, celle des 2,50 $ qu'il devait à Maria. Il en conclut que Maria ne le harcelait pas comme les autres, et il décréta que cette facture-là serait la seule qu'il paierait. Il se mit donc en devoir de fouiller dans le tas pour la retrouver. Il fouilla désespérément pendant des siècles et fouillait encore quand le directeur de l'hôtel, le gros Hollandais, entra en coup de vent, la face rouge de colère, en hurlant d'une voix de stentor qui faisait vibrer les vitres « Je retiendrai le prix de ces manchettes sur votre salaire !» La pile était devenue une montagne et Martin se dit qu'il allait devoir trimer pendant 1000 ans au moins pour pouvoir les rembourser toutes. Il n'y avait plus qu'une chose à faire. Tuer le directeur et mettre le feu à la blanchisserie. Mais le gros Hollandais lui opposa de la résistance. Il l'attrapa par la peau du cou et le secoua comme un prunier, puis le fit danser dans les airs au-dessus des tables à repasser, de la chaudière, des essoreuses et des machines à laver. Martin, ballotté sans répit, torturé par un terrible mal de tête, claquait des dents en s'ébaubissant devant la force du batave. Voilà qu'il était de nouveau devant l'essoreuse, cette fois pour retirer des manchettes qu'un rédacteur introduisait par l'autre côté. Chaque manchette était un chèque. Martin les inspectait fébrilement, mais ils étaient tous vierges. Il les triait par millions, les vérifiait tous, de peur d'en laisser échapper un qui fut rempli. Enfin, il en trouva un dûment signé. Tout tremblant, il l'exposa à la lumière. La somme était de 5 $. S'esclaffa le rédacteur derrière l'essoreuse. « Vous l'aurez voulu, dit Martin. Je vais vous tuer. » Il s'en alla chercher la hache dans l'arrière-salle et tomba sur Joe, occupé à amidonner des manuscrits. Il tenta de l'en empêcher, puis leva la hache sur lui. Mais l'arme resta suspendue en l'air et Martin se retrouva dans la salle de repassage, en pleine tempête de neige. Non, ce n'étaient pas des flocons de neige qui tombaient, mais des chèques d'un énorme montant, de 1000 $ et davantage. Il se mit à les rassembler et à les ficeler par liasses de sang. Levant les yeux, il vit Joe qui jonglait devant lui avec des fers, des chemises amidonnées, des manuscrits et des liasses de chèques qu'il prenait sur la pile pour les faire voltiger avec le reste dans un gigantesque tourbillon qui s'élevait de plus en plus haut et disparaissait à travers le toit. Martin voulut le frapper, mais le jongleur s'empara de la hache et l'ajouta au tourbillon. Puis il cueillit aussi Martin et l'envoya vers le plafond. Martin traversa le toit en moulinant des bras pour attraper des manuscrits. Il en avait une pleine brassée quand il retomba. Mais à peine avait-il touché le sol que Joe le relança dans les airs, deux fois, trois fois, cent fois, et au loin, très loin, il entendait un enfant chanter « Fais-moi valser encore, Willy, encore, encore, encore !» Il retrouva la hache au milieu d'une constellation de chèques, de chemises amidonnées et de manuscrits, et décida de tuer Joe dès qu'il serait redescendu. Mais il ne redescendit jamais. Il était 2 heures du matin. Maria, ayant entendu ses gémissements à travers la fine cloison, venait d'entrer dans sa chambre pour poser des fers chauds sur son corps et des linges humides sur ses yeux endoloris.